Allez, aujourd'hui, nouveau podcast avec Claude Salmon. Claude, je suis très content de te recevoir parce que tu fais partie des tout premiers organisateurs que j'ai pu côtoyer et tu es en Bretagne et donc tu es le premier organisateur breton qui passe sur ce podcast Orga. Comment vas-tu, Claude ?
Bah, écoute, très bien, merci. Merci pour l'honneur de passer en premier des organisateurs bretons sur ton podcast, c'est sympa.
Eh ben, tu passes juste après Gabi Etchard hein, qui est passé sur le podcast et avec qui j'ai passé un super moment. Et tu me disais d'ailleurs que tu avais participé à la course des crêtes du Pays Basque, donc c'est marrant ça.
Ah ouais, c'est rigolo, ouais. C'était vraiment, moi c'était ma première course, mais je sais plus quel âge j'avais, je dois avoir 24-25 ans, donc ça commence à dater. Et je crois que c'était à vérifier, je pense que c'était la première ou deuxième édition de la course des crêtes, quoi. Et moi j'avais été comme un cadet là-bas, hein, courir les 22 km là, avec la montée sur les crêtes du Pays Basque là, donc j'avais explosé en plein vol bien sûr parce que j'étais un cadet quoi. Mais j'avais fini et ouais, c'est marrant, c'est une course qui me tient à cœur parce que c'est vraiment la première expérience en montagne que j'ai pu avoir, quoi. Une petite montagne mais quand même montagne parce que ça monte pas mal.
Ouais, ça doit être un petit peu traître, hein. C'est un petit peu comme nos sentiers bretons hein, qui sont souvent regardés un peu de haut par nos amis montagnards, mais qui en mettent plus d'un de côté hein, quand il faut aller enchaîner les montées et les descentes. Ça, c'est toujours particulier quand on n'est pas habitué avec ce type d'effort. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie d'être organisateur du Ménestrail, qui est donc une des étapes du Challenge Waste Trail Tour?
Deux choses. Déjà parce que je suis coureur à pied d'origine, donc automatiquement c'est toujours bien d'aller voir de l'autre côté du rideau ce qui se passe. Et puis bon, je pense que j'ai un petit peu le côté organisateur dans l'ADN ou dans le sang. Avant de m'occuper du Ménestrail, en fait, je m'occupais de festivals de musique et de concerts beaucoup. Donc il y a, même si c'est pas la même chose, c'est quand même les mêmes ressorts que tu mets en place avec une équipe organisatrice, ça ressemble beaucoup en fait. Et donc il y a ce côté-là, je pense qu'intrinsèquement, la plupart des organisateurs de trail sont des organisateurs un peu dans l'âme, qui aiment organiser, que ce soit dans la musique, dans le sport, un cours de Scrabble, ce que tu veux, enfin je sais, voilà, là je plaisante un peu, mais voilà, il y a ce côté organisateur qui est sympa, quoi.
Ah, c'est vrai ça, parce que tu vois, quand j'organise l'anniversaire de mon fils, je fais toujours un truc assez exceptionnel pour lui, quoi. Tu vois, la chasse au trésor qui va bien, on essaie d'organiser ça correctement, quoi. Et ouais, c'est vrai ça, il y a le côté, t'aimes bien organiser, mais pas que dans la course à pied. Donc toi, t'as toujours fait partie de ceux qui aimaient un peu organiser les choses. C'était quoi le festival de musique que t'as organisé?
Moi, le premier concert que j'ai organisé, c'était avec 4-5 potes. On avait 18 ans, tu vois, même pas, ouais, 18 ans, parce que j'avais pas encore mon permis. Et c'était sur Quessoy. Et on a, de fil en aiguille, on a organisé le festival des sons d'automne qui se déroule qui existe toujours. D'ailleurs, je m'en occupe plus maintenant depuis une dizaine d'années, mais c'est un festival qu'on a monté en 95, 96 et qui tourne sur tout le pays de Moncontour, en fait, avec des concerts, spectacles de rue, voilà, cabaret, tout ça, et compagnie, voilà.
Et donc, le Ménestrail qui a commencé, alors si je regarde bien sur le site, les premiers résultats commencent, sur le site, c'est marqué en 2012, mais est-ce qu'il y a eu d'autres éditions avant, ou c'était la toute première édition?
Non, le Ménestrail, ce qui s'appelait avant le Trail du Pays de Moncontour, a commencé alors je sais jamais si c'est 99 ou 2000, première édition.
Ah oui, d'accord. Et donc du coup, qu'est-ce qui t'a impulsé l'envie d'organiser? C'était une volonté du club d'organiser un trail pour le village, ou c'était...
Non. Alors historiquement, ce trail a été la première édition. Enfin, la première édition a été lancée par le cordonnier de Moncontour, Marc Rondel, qui lui était coureur à pied aussi, qui l'est toujours, mais un peu moins parce qu'il s'est blessé, mais qui a lancé l'organisation d'une course autour de Moncontour et dans les chemins, ce qui était quand même à l'époque très qui n'était pas courant, quoi, sur les Côtes d'Armor, il devait y avoir Guerlédan qui existait et quelques petites courses comme à Portdig, il y avait ce qu'on appelait la ronde des douaniers où il y avait un petit passage sur le chemin des douaniers, mais c'est vraiment les premières courses qui sortaient un petit peu de la route, quoi. Et ça, c'est vraiment l'idée de Marc d'organiser cette course. Et c'est vraiment lui qui est à l'origine du Ménestrail, quoi. Et moi, je suis arrivé, donc ça s'appelle Trail Pays de Montcontour. Il y avait juste une seule course qui faisait 12 km, je crois, avec 80 ou 90 coureurs, je crois, au départ. Et moi, je suis arrivé comme bénévole en 2000 ou 2001, je crois, sur cette épreuve, vraiment bénévole signaleur, parce que j'étais copain avec Marc, et puis c'est parti comme ça.
Et comment ça s'est passé le moment où tu as pris un peu plus de rôle dans l'organisation? Tu as commencé en tant que signaleur et puis après ça s'est passé comment?
Après, je suis assez rapidement rentré dans l'équipe organisatrice. En fait, c'était organisé par l'école dès le départ, par l'école primaire. Donc il y avait pas mal de parents d'élèves. Moi, je suis rentré en tant que dans l'organisation, quoi. Et où le premier tournant, ça a été quand j'ai lancé la longue distance, en fait, le 46 km à l'époque. Ça devait être en 2005, je crois. On a décidé de lancer le 46 km et c'est moi qui me suis occupé de cette distance. Parce que j'avais déjà fait quelques longues distances, moi, de mon côté, en tant que coureur. Et c'est vraiment là où j'ai, on va dire, pris un petit peu plus d'épaisseur dans l'organisation du trail du Montcontour, qui s'appelait pas encore le Ménestrail.
Et alors, à cette époque-là, comment est-ce que ça se passait pour convaincre les officiels? Parce que, tu vois, là, pour le Grand Raid du Finistère, on traverse 11 communes, des communes qui n'ont jamais accueilli de trail. Et puis, quand je leur explique que les coureurs vont faire 166 km, la première question qu'ils me demandent, c'est en combien de jours? Est-ce qu'ils vont courir la nuit? Tu vois, enfin, c'est encore un sport qui n'est pas encore connu de tous et qui surprend encore des personnes. Mais il y a 20 ans, c'était encore moins connu. Comment est-ce que ça a été accueilli dans la commune?
Ce serait presque des questions qu'il pourrait poser à Marc plus tôt, mais donc c'est vrai que les premières courses organisées sur le Trail du Montcontour, ça prenait. On n'allait pas chercher les petits chemins, les petits singles, les plus pourris qu'on puisse trouver. C'était vraiment, ça restait quand même sur les grands chemins déjà tracés, les chemins d'exploitation, quelques passages en bois et tout. Maintenant, c'était vu, il y avait quelques demandes de fêtes, mais c'était vraiment vu un peu de main à main avec les propriétaires, comme ça. C'était pas très, c'était un peu fait en, à la va-vite, hein. Mmh. Et puis la commune, Marc était très, très impliqué dans la commune déjà, donc bon, ça passait bien, mais c'était des petits événements, hein. Tu sais, les premières années, voilà, 80 coureurs, 100 coureurs, ça faisait pas beaucoup de bruit, en fait, hein. Ça gênait personne.
Et comment t'as vu toutes ces réglementations, législations et entre guillemets contraintes, mais qui sont pas là pour rien non plus, arriver dans le milieu de l'organisation?
On s'est jamais trop posé la question. Ça arrive. Il y en a beaucoup que tu trouves un peu ridicules, mais tu les appliques parce que t'as pas le choix. Après, voilà, c'est un. C'est, j'ai du mal à répondre à ta question parce que c'est, on répond à ses obligations parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Mais c'est vrai que c'est, franchement, il y a énormément de réglementations qui sont quand même assez, à mon avis, assez crétines quand même.
C'est sûr que parfois, tu vois, tu te dis mais pourquoi faire tout ça alors que je veux juste emmener des gens courir.
Oui, oui, voilà.
Ouais. Et tu vois, de plus en plus d'événements tendent vers, tu vois, sur le Grand Raid du Finistère, je me suis posé je ne sais combien de fois des questions sur comment améliorer l'événement en termes d'impact écologique, etc. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais tu vois, si tu veux vraiment aller au bout du truc, t'organises rien. Mais bon, t'es quand même sensibilisé et t'as envie de faire des choses. Là aussi, c'est pareil. Toi, t'as dû voir ça évoluer, ce sujet-là, forcément. Et comment est-ce que t'as adapté l'événement?
Ah ben nous, on l'a adapté. Je pense que là, le côté écologique, nous, on l'a en tête depuis, on va pas, je sais pas, 5-6 ans peut-être, 5-6, 7 ans. Vraiment, je pense que c'est une prise de conscience qui est un petit peu dans l'esprit de tout le monde, de façon, enfin de beaucoup de gens, du moins depuis 5-6, 7 ans peut-être. Nous, on l'a fait vraiment tranquillement en essayant de bouger des petits côtés de l'organisation à la marge au départ. La première chose qu'on a fait, c'était de supprimer les rubalises en la remplaçant par du marquage permanent qu'on récupère d'une année sur l'autre. Après, bah, tu décides de supprimer les bouteilles d'eau, les remplacer par des jerrycans. Puis voilà, puis plus ça va, plus tu fais, plus tu essayes d'être un peu intègre au niveau de ta démarche, quoi. Après, c'est. Voilà, toutes les dernières choses qu'on a. Après, on a passé quasiment tous nos ravitaux, tu vois, en bio ou en local pour éviter que ça vienne de trop loin. On a supprimé tout ce qui était gobelet sur les ravitaux, ce que font beaucoup maintenant d'organisateurs, hein. Et même maintenant, là, on s'attache à ce qu'on a supprimé les lots, les t-shirts qui viennent du bout du monde aussi. Maintenant, c'est des lots locaux pour les finishers. Tout ce qu'on propose, on essaye de le faire de façon la plus éthique possible. Maintenant, on est loin d'être complètement exemplaire, mais on essaye de faire au maximum, quoi.
Ouais, vous avez été, alors il y en a sûrement d'autres, hein, mais du moins dans ceux que je connais en Bretagne, parmi les premiers à faire des vêtements et des lots finishers que les coureurs achètent en amont et puis qui retirent sur l'événement. Et en fait, bah on voit, hein, tu vois, sur le trail du Cap là, que j'ai fait récemment, j'ai vu qu'il y avait un coureur qui portait ce t-shirt-là et qu'il avait vraiment... Bah, à cœur de le porter, tu vois, il était fier de l'avoir. C'était un peu une idée novatrice, plutôt que d'en offrir à tout le monde, de proposer à ceux qui le souhaitent finalement de l'acheter, de payer un peu plus cher que les autres lors de ça, et puis d'avoir ce t-shirt-là.
Ah ben, oui, c'est clair. En plus, tu sais, on était arrivé après, ce qui nous a. Bon, quand on offrait le t-shirt finisher, enfin, c'est même pas le t-shirt finisher, c'est le t-shirt qu'on offrait à tous les gens qui avaient pris une inscription. En gros, c'est un t-shirt qui coûtait 4 balles, qui était fabriqué, je sais pas où, hein, au Bangladesh, ou moi, je sais pas trop où, en fait, à vrai dire. Et on en a eu marre de ça, puis on a surtout marre de fournir 3000 t-shirts, en sachant très bien que sur les 3000, il y en a, allez, 600 qui allaient être portés, et les autres qui allaient soit finir dans le fond d'un placard, ou soit pour faire du bricolage, ou faire du jardinage, donc c'est un peu crétin. Donc on a préféré arrêter tout ça et passer sur un mode de t-shirt qu'on essaie de faire éthique, qui est fabriqué en Europe et à la demande, quoi. Qu'on n'ait pas, si tu veux le t-shirt, bah tu le payes. L'an dernier, il était en vente 25 euros, et nous on gagne quasiment rien dessus. Mais c'est vraiment pour le mec qui a envie d'avoir le t-shirt, donc il met 25 euros. Donc s'il met 25 euros, en principe, c'est qu'il va le porter, quoi. Nous, on fait pas cette opération t-shirt, on la fait pas pour faire forcément de l'argent. C'est aussi dans un esprit de communication. Voilà, ça fait plaisir au coureur, et en plus, pour nous, ça nous fait plaisir aussi de les revoir après sur les courses, quoi.
Bah, c'est sûr que c'est un des leviers pour pouvoir communiquer sur son événement et puis de faire durer un peu la notoriété de l'événement tout au long de l'année. Ça, vu que s'il se balade dans les différentes courses ou autres courses, forcément on va penser et parler de la course en question. Et comment est-ce que ça a été accueilli au moment de la transition par les coureurs? Est-ce qu'il y en a qui ont râlé un peu de dire on n'a pas de low finisher, on n'a pas le petit t-shirt? Parce que finalement, ce sujet du low finisher, il est un peu controversé, parce que beaucoup disent en public que c'est pas grave, etc. Mais au fond, qu'ils aiment bien avoir leur petit truc quand même à l'arrivée, et que quand ils l'ont pas, ils sont un peu déçus. Comment est-ce que ça a été accueilli pour vous?
La première année, ça a été. En fait, on avait l'avantage d'avoir tout un stock de t-shirts des années passées, en fait, parce qu'il en reste. Pour être sûr que tout le monde ait son t-shirt, si tu as 3000 coureurs, tu fais 3200 t-shirts, et tu n'en as que 2800 qui partent parce que tu as des gens qui ne viennent pas ou qui ont envie de le prendre. Donc, on avait quand même, je ne sais pas, 600-700 t-shirts qui nous restaient sur les bras des années passées. Donc, en fait, la première année, on a supprimé le t-shirt à l'arrivée. On a dit aux gens, bah, écoutez, il n'y a pas de t-shirt. On avait bien annoncé en amont. Et puis, ceux qui voulaient racheter un t-shirt des années précédentes, il était en vente 2 euros le t-shirt. Donc, ça permettait aux gens de repartir quand même avec le t-shirt Medistrail pour des années passées. Mais c'est, de toute façon, c'était le même d'une année sur l'autre quasiment. Donc, ça a permis de faire passer la pilule. Et en fait, c'est là où tu t'aperçois que les gens ont évolué aussi. C'est que maintenant, on offre une bière 75 centilitres avec une étiquette logotée avec l'affiche du Medistrail. Les gens sont super contents. Ils nous disent, ouais, vous avez bien fait de supprimer le t-shirt, ça sert à rien, on en a plein. Puis voilà, quoi.
Puis en plus, elle est super bonne.
On a un partenaire, on a un brasseur partenaire, la brasserie de Launay, qui à l'origine a été créée à Moncontour, qui maintenant s'est délocalisée à Lamballe pour l'histoire de logistique. Mais c'est notre partenaire depuis le début. Je pense qu'on était peut-être aussi un des premiers trails à vendre de la bière locale à la buvette. On n'a quasiment jamais travaillé avec les grosses brasseries comme Henkel ou Kronenbourg. En fait, on a toujours travaillé avec cette brasserie-là depuis qu'elle est installée. Puis voilà, quoi, c'est une IPA qu'il a brassée exprès pour le trail. Donc ça donne un petit côté.
Ouais, d'autant que maintenant les brasseries, il y en a quand même un peu partout dans toutes les communes, j'ai l'impression, en Bretagne. Travailler avec un brasseur local, c'est quand même pas compliqué, quoi, maintenant. Et puis c'est pas forcément beaucoup plus cher aussi. Bon, c'est quand même un peu plus cher, si, mais c'est quand même, la qualité, elle est quand même mieux au rendez-vous, quoi.
Ouais, et puis si tu fais l'effort de mettre, l'effort un peu financier, mais ça coûte pas forcément très cher, de mettre une belle étiquette qui rappelle le trail, c'est toujours sympa. Moi, on reçoit, nous, sur le Facebook, on reçoit par message souvent, nous, c'est début décembre, donc au moment de Noël, on reçoit des photos avec les coureurs qui sont en train de boire avant Noël, là, qui sont en train de boire leur bière Minestrail, c'est sympa, quoi, ça fait. Et qui t'envoient la photo, l'air de dire, on y repense encore au Minestrail, c'est bien, ça fait un petit souvenir sympa.
Alors justement, tu as soulevé un point qui m'intéresse. Votre course, elle est début décembre. D'ailleurs, le slogan, hein, du Medistrail, c'est la nuit, le vent, la boue. Comment est-ce qu'on fait pour recruter et fédérer et conserver des bénévoles à cette période de l'année où on sait que c'est pas simple pour eux, quoi, de venir pour assister les coureurs.
Alors, ça vient un petit peu de l'histoire du Medistrail aussi. C'est quand on a créé la longue distance, 46 km en 2006, hein, à l'époque, les bénévoles qui venaient sur le Medistrail, c'était beaucoup des gens du coin, des parents d'élèves, tout ça. Donc c'est des gens qui viennent pour rendre service, mais qui sont pas forcément concernés par l'événement, dans le sens, ils viennent parce qu'il y a de l'argent qui va à l'école après, ou parce que on va bien rendre service, et voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, de rester 3 heures dans le froid et compagnie, c'est compliqué. Et quand on a créé la longue distance, moi j'avais promis qu'il y aurait pas de, que tous les bénévoles qui viendraient, ce serait des nouveaux bénévoles, en fait, des gens qu'on irait chercher ailleurs. Et là, moi, j'ai activé tout le réseau des potes, hein, avec qui on organisait des concerts avant, et c'est des gens qui n'avaient rien à voir dans le sport, qui sont venus en bénévole. Et c'est cette équipe-là qu'on a depuis 2006, quoi, qui s'est étoffée avec, par cooptation, un pote a ramené d'autres potes et tout. Et donc, sur le staff de bénévoles qu'on a maintenant, on doit avoir 150 à 200 bénévoles. C'est que des copains ou des copains de copains, en fait. Et donc des gens qui viennent avec plaisir sur l'organisation, quoi.
Et du coup, c'est des gens qui sont là depuis quasiment le début. Il y a un socle dur, c'est ça, et puis qui sont là chaque année, et c'est comme ça, et puis ils reviennent tout le temps, quoi.
Ah oui, je pense que au moins depuis 2006, depuis qu'on a créé la grande distance, moi je pense qu'il y a des bénévoles qui sont là. Qui sont là tous les ans depuis 2006. Ou quand ils sont pas là, c'est qu'ils sont, parce que ça a eu l'effet aussi de dans toute la bande dans toute cette bande, ça a eu comme effet aussi de mettre beaucoup de gens à courir. Donc soit ils sont là, ou soit ils sont à courir. Alors ils vont courir une course, faire une course le matin, il y a de bénévoles l'après-midi. Enfin, tu vois, il y a pour être coureur et pour aller sur beaucoup de courses, alors c'est, je veux vraiment pas lancer des fleurs au Ménestrail, mais il y a une équipe de bénévoles au Ménestrail qui est juste exceptionnelle. Je dis pas ça. Tu sens bien tes coureurs aussi, François. Tu sens quand tu arrives sur des courses et que l'équipe de bénévoles est contente d'être là, tu le sens. Et quand tu arrives sur des courses où c'est des gens qui viennent là juste pour rendre service et que ça fait un peu chier d'être là, tu le sens aussi. Et franchement, nous, à mon contour, s'il y a bien un truc qui est au top, c'est bien l'équipe de bénévoles. C'est impressionnant.
Bah, c'est vrai qu'on ressent ça, presque ce dévouement hein, pour les coureurs. Qu'ils peuvent avoir. Y a un truc qui m'intéresse, c'est que, alors je suis en train d'essayer de rechercher l'année, mais je m'en souviens plus, je crois que c'était en 2020 ou 2019, t'avais organisé une version ultra de 100 km sur le Ménestrail, et ça s'était pas reproduit. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, et pourquoi avoir organisé cette version ultra qu'une seule fois finalement?
Alors c'était les 20 ans du Ménestrail, donc en 2019, 20e édition au moins. Et bon, je voulais marquer le coup et on est parti sur l'ultra. Là, c'était une idée c'est une idée globale. Et puis c'est Jean-Hugues, un des cadres du Ménestrail qui s'occupait de tout du parcours et tout. Et donc voilà, donc on avait lancer cette ultra avec toujours en pensant en bénévole, avec des conditions un petit peu particulières, c'est-à-dire avec des barrières horaires un peu. Tu l'avais fait, je crois, d'ailleurs, non?
Ouais, j'y étais,
ouais. Avec des barrières horaires un petit peu serrées pour éviter que nos bénévoles aient à rester là jusqu'à pas d'heure. Et donc, Jean-Hugues avait, toujours dans la même idée, en fait, vu qu'on est en bénévole, il avait créé une équipe de bénévoles, une dizaine de bénévoles qui ne s'occupaient que d'ultra, quoi. Et en fait, c'est très, très... c'était super. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était bon. Rajouter un 100 km comme ça, avec un départ à 2h du matin ou minuit. Je ne sais plus à quelle heure vous partiez, d'ailleurs. 2h, je crois.
2h, ouais, je crois. Ouais.
Et c'était super. Maintenant, c'est très chronophage. Ça demande une grosse organisation. Donc, on l'a fait qu'une année pour l'instant, mais ça reviendra. Tous les ans, on nous le demande, cet ultra. Donc, il reviendra. Maintenant, quand, je ne sais pas.
Ah, c'est sûr que...
il reviendra, je pense qu'il ne reviendra jamais en édition tous les ans. Je pense qu'il y a un petit côté sympa aussi de le faire revenir une fois de temps en temps, quand on est décidé. Voilà.
Ouais, c'est intéressant ce côté varier les différentes distances, parce que souvent, tu retrouves exactement les mêmes distances d'une année sur l'autre. Sur les événements, finalement il y a peu de nouveautés et de mettre un événement. C'est vrai que ça, souvent, c'est un sujet qui souvent m'interpelle. C'est des coureurs qui disent cette année non, je viendrai, mais l'année prochaine je viendrai. Mais en fait, qui te dit que je vais l'organiser l'année prochaine? Tu vois, j'ai un copain qui a organisé ça, lui c'est pareil, il est un peu organisateur dans l'âme, et puis il a organisé une chasse au trésor géante sur le thème des Vikings, c'était dans le Morbihan. Puis plein de gens lui disaient cette année je peux pas, mais je viendrai l'année prochaine. Mais lui, en fait, il avait pour objectif d'organiser ça qu'une seule fois, donc il avait plein de déçus. Mais c'est intéressant, je trouve, le côté organiser une distance comme ça ponctuellement, une seule fois, et puis peut-être en fait que peut-être que les gens, s'ils le savent, que ça fait que une seule fois tous les X temps, peut-être que ça va les inciter à venir sur cette édition-là et pas repousser, quoi. Je sais pas.
Oui, voilà, c'est, ouais, tout à fait. De toute façon, si on la refait, on précisera bien que ce sera peut-être encore un one-shot, qu'il reviendra peut-être pas avant 4-5 ans encore après, je sais pas.
Ouais, c'est intéressant, ça, ce côté faire une distance ponctuelle. Ouais.
Ah ben on l'avait fait autrement, alors je crois que c'était en 2018, on avait dû faire aussi une. On l'a fait qu'une fois aussi parce que c'était un peu compliqué en organisation. On avait fait un kilomètre vertical mode mon contour, quoi. On avait appelé ça un speed trail, hein, avec un départ du bas de mon contour et une montée jusqu'au gymnase avec départ toutes les 30 secondes, en fait, en chronométré sur le mode du kilomètre vertical qui existe en montagne, quoi.
Ça avait pris, ça avait plu?
On avait eu, je crois, De mémoire, on avait dû avoir 60 ou 70 coureurs. Mais de toute façon, on n'en voulait pas plus de 100. Donc, on n'avait pas fait énormément de pubs, mais ça avait été très sympa comme, comme idée, quoi. C'était, il y avait 80 mètres de dénivelé par des champs et des bois pour remonter du bas de mon contour jusqu'au... Enfin, c'était juste une grosse montée, en fait, quoi. Mmh. Un truc hyper explosif. D'ailleurs, ceux qui avaient gagné, c'était des petits jeunes, souvent des juniors, quoi, qui avaient gagné ça, parce que c'était vraiment... Moi, j'avais essayé de le faire, c'était... Enfin, voilà, on a plus l'âge, quoi. C'est des trucs qui ont explosé tous les vaisseaux, quoi. Hein.
Mmh. Un truc bien cardio. Ouais. Ok. C'est intéressant parce que je voulais... Enfin, ça, c'était une de mes nombreuses idées d'organiser un 24 heures, un challenge 24 heures des plus en Bretagne, parce que tu sais, ça existe ouais. Forcément à chaque fois, ça se passe en montagne, ce genre de défi. Et de le faire en Bretagne, ce serait intéressant pour voir combien est-ce qu'on arrive à faire de D+ avec des petites côtes de 100, 150 mètres de dénivelé maximum, comme on peut avoir chez nous.
Alors Christophe Malardé l'avait organisé, ça. Hein.
C'était à la chapelle...
Dans son coin, là, dans son ouais. coin perdu, là, je sais plus où, là, on n'en jamais de ce nom.
Au Fawette.
Non, comment s'appelait son bled, où est-ce qu'il habite Christophe, bref, je sais plus, là, il organisait un trail à une époque aussi là-bas. Il avait fait une formule qui était assez sympa aussi, avec du maximum de D+ à faire je sais plus, c'était peut-être en 6 heures ou un truc du style, avec 3 parcours, en fait. Tu avais le parcours noir, parcours bleu, parcours rouge, à toi de choisir ce qu'il fallait que tu fasses. L'idée, c'est de faire le plus de D+ en un temps donné.
Ah, c'est pas mal, ça. Enfin, je me rapprocherai de Christophe.
Il l'a fait qu'une année. Hein. Je crois que c'était... c'est sa date, hein. J'ai plus tout en tête, mais je crois que c'était Jérôme Lucas, comme par hasard, qui avait gagné. Mmh.
Étonnant.
Étonnant, ouais, c'est bizarre. Hein.
ok, non, c'est bien. Moi, j'aime bien ces formats un peu qui change de l'ordinaire. Le Ménestra, il fait partie du challenge Wales Trail Tour. Est-ce que tu peux nous parler de la naissance de ce challenge et un peu les raisons de l'avoir mis en place?
Alors, la naissance, c'est parti de comment? De 3-4 personnes au départ, dont sur principalement Joël Caer, créateur de la Bervrac, hein, qui n'est plus dans l'organisation depuis quelques années d'ailleurs, Bernard Gauthier, Guerlédan, et Fabrice Karadec du Trail du Bout du Monde. Fabrice, c'est pareil, il y a eu un peu moins, je crois, il est toujours dans l'organisation, mais il n'est plus en première loge. Et donc voilà, et ils m'ont contacté parce qu'on se croisait, particulièrement avec Joël, on se croisait sur des courses régulièrement. Et donc l'idée, c'était de faire un regroupement. On était les seuls, et le Glazik avec Samuel Bourges aussi, qui a été contacté très rapidement. On était à l'époque quasiment les seules grandes distances en Bretagne, quoi. Et donc l'idée, c'était de se faire. Nous, on se voyait régulièrement sur les courses avec Bernard, on se croise aussi de temps en temps. Enfin bref. Donc du coup, l'idée, c'était de faire un challenge entre ces courses, quoi, pour mettre un peu en avant ces longues distances, quoi. C'était vraiment ça l'idée de départ, quoi. Et sur le mode très convivial, il n'y avait pas de prise de tête, il n'y a toujours pas d'ailleurs, mais c'était vraiment lancer un petit truc comme ça, voilà. Et c'est parti vraiment au départ, c'est parti comme ça, quoi.
Parce que ça, c'est un sujet qui est intéressant en termes de communication, de marketing, pour faire venir les coureurs chez soi, faire un challenge pour que chaque année, en fait, t'essayes de faire un peu mieux ou de faire une autre course du challenge. Là, il faut en faire 4 pour faire le challenge, si je ne me trompe pas. Ouais. Et ça avait été fait dans un objectif de créer un espèce de mini circuit breton, ou c'était quoi l'idée?
C'est pareil, moi j'étais pas, enfin, vraiment l'idée est partie de Bernard, Joël et Fabrice. Dès les premières réunions, l'idée c'est de faire un espèce de, il y avait les, à l'époque il y avait les circuit Salomon surtout, là, qui était au niveau national, qui tournait à plein à l'époque. C'était un des seuls d'ailleurs qu'il y avait, hein, tout ce qui était TTN et tout ça, ça n'existait pas. Trail Tour National. Et comment, voilà, l'idée c'était de faire un circuit breton de longue distance. Histoire de retrouver un peu de faire venir un peu les coureurs sur chaque course et puis de voilà d'avoir un petit côté compète sur l'année quoi.
Ouais, puis ça prend bien en plus hein. Enfin tu vois il y a des nouvelles courses finalement en Bretagne qui organisent des distances comme ça maintenant chaque année et le fait de faire partie d'un challenge je trouve que ça fait booster un peu aussi la notoriété d'une course. Bah, tu vois, enfin les 7 courses du Challenge Wakes Trail Tour, je crois qu'il n'y a pas un coureur du breton qui les connaît pas. Enfin, c'est efficace quoi en termes de marketing de faire partie d'un challenge.
Ouais, alors ça a été très efficace. Enfin, c'est toujours efficace. C'est vrai que ça a été un petit peu. À l'époque, donc après, on a intégré le Scorff et la Bervrac. N'importe quoi. Le Scorff et Brocéliande.
Brocéliande, ouais.
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu voulais faire des courses longues en Bretagne. Il y avait que ces 7 courses-là, en fait. Il n'y avait pas grand-chose en plus. Et les coureurs, à l'époque, n'avaient pas forcément... Il n'y avait pas beaucoup de coureurs à aller sur l'extérieur faire de la montagne et compagnie. Et le Challenge Wakes Trail Tour représentait vraiment la façon de faire du long sur la Bretagne. Et je pense que maintenant... Enfin, ce qui est très bien, hein, maintenant, il y a énormément de courses longues en Bretagne. Hein, enfin, c'est impressionnant, hein, le nombre de courses au-delà de 40-50 km qui est en Bretagne. Maintenant, c'est énorme. Et puis maintenant, les coureurs se déplacent beaucoup plus sur le... Faire le challenge Wakes Trail Tour, bon, il y a beaucoup de coureurs à le faire et ça reste un challenge très relevé, enfin avec bien souvent quand même les meilleurs bretons. Mais ça devient aussi compliqué de faire le challenge Wakes Trail Tour parce que la plupart des coureurs, maintenant, une fois qu'ils ont fait le challenge ou une fois qu'ils ont fait un petit peu le tour des courses longues en Bretagne, ils vont de toute façon faire des courses en montagne. Donc combiner un challenge sur 5 courses de plus de 50-60 km sur la Bretagne et rajouter à ça une ou deux courses longues en montagne, ça devient compliqué au niveau planning et au niveau. Physique, hein.
C'est vrai ça que en Bretagne là, le trail il a connu un essor assez incroyable et parfois certains week-ends t'as 3-4 courses qui sont organisées sur le même week-end rien qu'en Bretagne. Toi tu vois ça comment à l'avenir, enfin tu penses qu'il faudrait avoir une espèce de régulation de c'est compliqué en fait de dire à quelqu'un non t'organises pas une course à telle date.
Ah bah c'est ce que la FFA essaye de faire, mais ils ne réussiront pas. Moi je trouve que c'est bien qu'il y ait. Moi je trouve ça très bien, cette profusion de courses. T'as vraiment pour. Je crois qu'on est. Alors surtout de la Bretagne, je ne sais pas, rien que sur le département des Côtes d'Armor, je crois qu'on est à 110 courses, 110 manifestations hors stade sur l'année. Rien que dans les Côtes d'Armor. Je crois. Donc ça fait énormément de courses, mais moi je trouve ça très bien. Chacun trouve chaussure à son pied. Tu peux faire soit aller sur les gros événements, soit sur un gros événement, ou soit tu peux faire aussi une petite course. Quand je dis petite, c'est pas sur la qualité. Moi, je trouve ça super intéressant d'aller faire. Moi, j'adore aller faire des petites courses où il y a 100, 150 coureurs au départ. Hein. T'es pas. C'est une autre vision de la course, mais c'est tranquille. Tu vis plus en. T'es plus proche de la nature parce que t'as personne devant, personne derrière. Moi, je trouve ça très sympa, donc tu peux varier les plaisirs en fait. Tu vas aller faire un Guerre-les-Dents ou un bout du monde un week-end, et puis le week-end d'après, tu vas aller faire une petite course où t'as 200 partants et où rapidement tu te retrouves tout seul avec un mec ou avec 2-3 mecs et à échanger. Et c'est très sympa, je trouve. Donc pour moi, il n'y a pas à réguler. Après, ça s'autorégule hein, parce que t'as des courses qui font ça un peu pour l'argent, c'est pas pour financer des projets et compagnie, et si au bout de 3-4 ans, ils n'ont toujours que 100 coureurs, ils vont peut-être arrêter parce que c'est une grosse dépense d'énergie pour pas grand-chose, donc ils vont arrêter, ça va s'autoréguler, et puis autrement, t'as des organisations qui, de toute façon, se suffisent avec un peloton de 100 ou 200 coureurs, c'est leur objectif, et puis voilà, quoi. Donc moi, je pense pas qu'il y ait à réguler, hein. Chacun fait ce qu'il veut, et même s'il y a deux courses... Si deux organisateurs décident de faire deux courses à quelques kilomètres d'intervalle, ben, c'est pas grave, hein, c'est c'est pas grave. Et on s'aperçoit même qu'il y a quasiment, il y a énormément de place. Là, tu prends le week-end dernier, il y avait la Bervarac qui est archi complet. Moi, je sais pas comment ils doivent avoir pas loin de 2000 coureurs, je pense, à la Bervarac. Et à côté de ça, moi, j'étais à courir entre Dunes et Bouchot à Lyon, c'était 1400 coureurs et c'était complet déjà depuis 2 ou 3 mois, tu vois. Donc, donc il y avait encore de la place à 2-3 courses en Bretagne. Hein.
C'est incroyable hein, ce nombre de coureurs qui explosent comme ça, mais c'est très bien. Hein. Moi, je trouve ça génial que des gens se mettent à aller faire des. Je disais l'autre jour, un peu par provoque, que les événements devraient être remboursés par la Sécu. Ouais. Parce que ça incite les gens à se mettre au sport. Mais t'as raison. Enfin, je trouve ça vraiment super, super intéressant que chacun puisse aller sur l'événement qui l'intéresse et qui a envie de participer. Et puis qu'une année tu vas à l'événement où il y a beaucoup de monde, l'autre année tu vas à l'événement où il y a un peu moins. Et puis tu varies comme ça au long de l'année en fonction de ce que tu as envie de faire et qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Mais c'est vrai que. Après c'est sûr que c'est bien en fait ces réunions qu'il y a je trouve en début d'année pour essayer de se caler avec tous les autres organisateurs pour voir par exemple tu vois s'il y a 2 ultras sur le même week-end en Bretagne ce serait dommage quoi.
Complètement,
il n'y a déjà pas beaucoup donc il y a une espèce de coordination comme ça mais une régulation
je pense que plus que régulation c'est coordination mais c'est très bien parce que la réunion de calendrier là où juste il faut elle est nécessaire hein, pour se coordonner maintenant dans l'absolu si deux organisateurs sont d'accord de prendre le risque d'organiser le même week-end une course pourquoi pas moi ça me gêne pas et je pense qu'il y a un public un peu pour tout hein, il y a pas mais c'est parce qu'on est en Bretagne hein, parce que tu vas dans d'autres régions il n'y a pas cette profusion de courses hein, c'est clair hein. on est vraiment un cas particulier à la Bretagne hein.
Il y a peut-être la région de Grenoble aussi par là c'est quand j'avais fait mon DU il disait que des fois sur certains week-ends c'était assez incroyable aussi le nombre d'événements qu'il y a
Moi je me rends compte quand je pars en vacances d'été ou quand tu vas moi je choisis pas ma destination en fonction des courses sauf pour quelques fois mais quand tu dis tiens on va aller en vacances et moi une des premières choses je regarde s'il y a des courses pour trouver des courses qui tombent le week-end où tu arrives là-bas c'est compliqué hein, souvent t'as pas une offre énorme, alors qu'en Bretagne, tu viens n'importe. Bon, il y a peut-être un peu moins de courses l'été en Bretagne, éventuellement, mais tu viens n'importe quand, mais tu es sûr de trouver une course à. Tu prends un compas, tu fais un rayon de. Tu vas en vacances en Bretagne, tu fais un rayon de 60 km, tu es quasiment sûr de trouver une course tous les week-ends, quoi.
Ah oui, 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 je suis convaincu de ça aussi, ouais, bien sûr, j'ai pas de doute là-dessus. Ouais. C'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir en faire tous les week-ends sans faire trop de route, si on veut. Qu'est-ce que tu as vu en termes d'évolution dans l'organisation est-ce qu'il y a des choses comme ça qui t'ont marqué en termes d'organisation des difficultés ou des choses à surmonter auxquelles tu t'attendais pas forcément est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient quand je te dis ça
difficulté à surmonter dans l'organisation.
Ouais, par exemple, tu vois, pour un jeune organisateur comme moi qui débute dans l'organisation et puis qui, tu vois, quand je me suis lancé sur le Grand Raid du Finistère, je pense que si j'avais su toutes les difficultés que j'allais devoir surmonter, je me serais peut-être pas lancé dans l'organisation. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui, toi, quand tu t'es lancé là-dedans, t'ont surprise un peu des difficultés comme ça ou pas
Non, parce que nous on a eu la chance. Nous on est parti de tout petit avec une petite course de quartier au départ, donc pas très compliqué à organiser. Et en fait, on est monté en gamme tranquillement. Donc du coup, il n'y a jamais eu de grosses difficultés arrivées sur une année. En fait, tous les ans, c'est plutôt nous qui rajoutions un petit peu de chantilly à droite à gauche pour que le gâteau soit plus joli, quoi. Donc il n'y a jamais eu de surcharge de travail d'une année sur l'autre, en fait, quoi. On rajoutait des petites choses tous les ans, donc voilà. Après, au niveau organisation, à une époque, on est arrivé quand même à quand vraiment le Meles Rail a commencé à prendre de l'ampleur, on s'est retrouvé avec une équipe trop restreinte en fait. On n'était plus assez nombreux, pas assez nombreux parce que l'équipe était toujours restée la même en fait, et du coup il y avait une surcharge de travail énorme et ça nous prenait un temps fou quoi. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est surtout de s'entourer d'une équipe motivée et hyper concernée par l'organisation quoi. Et plus on est une équipe vraiment nombreuse et avec des tâches, avec une délocalisation, une décentralisation des tâches au maximum quoi, pour que chacun, parce qu'on est tous que des bénévoles, donc on a tous nos boulots à côté et puis nos familles et puis voilà et compagnie, donc pour que ce soit le plus facile possible, il faut du monde quoi. Il faut vraiment des gens de confiance et des gens qui se sentent prêts à s'investir un petit peu, et plus tu sectionnes le travail, moins t'as de travail à faire. Nous maintenant sur le Meles Rail, on est à force d'avoir ça en tête, en fait on est quasiment on n'a plus de bureau vraiment, de bureau organisateur, sauf pour la préfecture. Maintenant on a un comité organisateur et on est 20 personnes à organiser le Meles Rail par binôme systématiquement, et chacun a son petit dossier à gérer. Ça fait pas énormément de boulot, ça fait toujours du boulot quand même, mais pas énormément de boulot pour chacun quoi. Et ce qui permet sans doute d'avoir une pérennité aussi dans l'organisation et que ça reste quelque chose de convivial à organiser.
Et c'est pas difficile justement ce côté délégué ou plutôt ça c'est quelque chose que tu as plutôt réussi à faire assez facilement, parce que certaines personnes vont plutôt avoir envie d'être un peu dans le côté un peu perfectionniste, de vouloir faire exactement comme tu as envie que ce soit fait. D'autres, à l'inverse, vont avoir des facultés justement à déléguer et puis à faire confiance. Toi, c'est plutôt cette façon de faire que tu as adoptée.
Ah ouais, moi, le but du jeu, c'est d'en faire le moins possible. Donc, du coup, si tu veux en faire le moins possible, t'as intérêt à t'entourer de personnes qui cartonnent.
Ça, c'est vraiment une des grandes capacités de savoir bien s'entourer, quoi. Du coup, j'ai l'impression.
Ouais. Ouais, mais c'est pareil. C'est l'histoire du Meles Rail. Si tu voilà, franchement, la bande de 20 personnes qui organisent le Meles Rail, c'est une équipe de potes maintenant. Donc, les plus jeunes, on a intégré avec le temps aussi, on a intégré des jeunes, des personnes plus jeunes dans l'équipe pour la suite et pour voilà, parce qu'il faut. Et du coup, maintenant, je sais pas, mais les plus jeunes de l'équipe doivent avoir une 30 balais, et puis les plus âgés dépassent la soixantaine. Quoi, tu vois. Et on réussit à faire rentrer des gens. Sur les grosses organisations, le plus compliqué, c'est de faire rentrer des gens dans le bureau, parce que quand tu vois ça de l'extérieur, on a souvent eu la remarque de personnes à qui on demandait, allez, tu vas venir nous filer un coup de main dans l'organisation. Les gens nous disaient, non, non, c'est trop gros votre truc, moi je... Non, 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 c'est impossible. Donc dans ces cas-là, on fait rentrer les gens par la petite porte en fait, en disant, bah, écoute, tu viens cette année, tu vas juste t'occuper de... T'es plus signaleur, mais tu vas juste t'occuper de tel ravito, par exemple, tu vas juste gérer ce ravito et tout et compagnie, puis l'année d'après, on demande un petit peu plus, puis en fait, ces personnes-là, au bout de 2-3 ans, deviennent des cadres de l'organisation. Hein.
C'est important ce côté presque formation en fait de ses propres bénévoles. Hein.
Ah ben c'est de la formation, c'est clair. Moi j'ai toujours l'exemple de. Toi on a. Je vais prendre l'exemple de Benjamin là, qui est dans le Meles Rail depuis 6-7 ans, non, de 3-4 ans. Et c'est pareil, il m'avait dit non, je ne veux pas rentrer dans votre truc, c'est trop gros, c'est impossible à organiser votre machin. Là. Et donc il est rentré au départ juste en gérer les bénévoles du bourg. Quoi. Parce que c'est, voilà, avec Michael qui était beaucoup plus aguerri, et puis maintenant en 2 ans maintenant Benjamin c'est lui qui gère tout le volet sécurité du Meles Rail, c'est-à-dire toutes les prises de contact avec les médecins, les sécurités civiles et tout, c'est lui qui gère la sécurité en amont et sur l'événement quoi.
Ouais, c'est sûr, parce que tu vois, si tu mets les bénévoles avec une charge trop importante dès le départ, c'est un coup aller dégoûter, et puis en fait l'année d'après ils reviennent plus, et ça fait partie aussi de la fidélisation, finalement, de réussir à bien gérer en fait les rôles et distribuer en fait à chaque personne.
Pour moi, c'est responsabiliser les gens. Tu donnes, et puis rendre le, dans la mesure du possible, essayer de rendre le travail de bénévole intéressant. Et pour le rendre intéressant, il faut responsabiliser les gens. Tu dis à des personnes, bah, écoute, voilà, maintenant, est-ce que tu veux bien gérer on a une équipe qui gère les repas, par exemple, c'est David. Là, on lui dit, écoute, David, ça, c'est lui qui m'a dit, écoute, moi, je veux bien gérer, mais je veux bien maintenant, moi, je veux bien gérer de A à Z. Donc, c'est lui qui fait toutes les courses, qui prépare les menus, qui nous rend même pas de compte, qui s'occupe de tout, pour tous les ravitaux. Excuse-moi, François. Ouais, donc, c'est vraiment responsabiliser les gens, et puis essayer de faire que le travail de bénévole soit sympa, quoi. Chaque ravito est géré par une équipe, tu vois, qui est autonome, qui gère son ravito. Ah putain, excuse-moi François, je suis désolé, j'ai le téléphone qui sonne, les aléas du direct. Hein.
C'est ça.
Donc voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, bien sûr, c'est sûr que c'est des sujets, comme on disait au tout début, les bénévoles, ça faut en prendre soin, et puis les faire monter en compétences progressivement. Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées pendant le Ménestrail, des anecdotes auxquelles jamais personne n'aurait pu penser que ça se serait passé, tu vois, un petit truc, je sais pas, une anecdote, tu vois, qui serait intéressante à partager, et que toi t'as marqué pendant l'une des organisations de l'événement.
Peut-être la chose qui nous a le plus marqué, qui vient de toute façon dans les choses extraordinaires, c'est quand deux jours avant l'événement, là à l'époque on devait avoir 1600 ou 1700 coureurs, et deux jours avant l'événement t'as 20 cm de neige en Bretagne.
Ah ouais.
Où tu te dis les routes sont impraticables, le jeudi les routes sont impraticables, la course a lieu le dimanche, tu te dis bah c'est, on va tout annuler, et puis en fait le vendredi la neige commence à fondre, le samedi c'est bon, et donc on organise quand même le Ménestrail le dimanche avec le vent et tout et compagnie, et dans certains endroits il y avait quand même les coureurs, les têtes de peloton passaient avec de la neige quasiment jusqu'au genou, quoi. Ça c'est vraiment, et même les coureurs qui l'ont fait à l'époque, je crois que c'était en 2007, je crois, je sais plus trop quoi. Les coureurs nous en parlent encore de cette édition qui avait été vraiment incroyable, et puis hors de contrôle quelque part, parce que nous on avait passé une nuit blanche, la nuit du samedi à dimanche, une nuit blanche à tout essayer de tout remettre les balisages en place, de découper des arbres qui étaient tombés avec le poids de la neige sur les chemins, puis on n'avait pas eu le temps de tout faire, donc au briefing le matin, c'est écoutez, voilà, surtout pour les coureurs qui faisaient 50 km, on leur dit, vous y allez, maintenant on n'a pas pu tout dégager, il va falloir improviser par endroit, essayer de deviner où est le chemin, enfin c'était... Et là, dire, quand tu dis ça aux coureurs le matin, t'es pas très fier quand même, tu dis, bon, j'espère que tout le monde va réussir à rentrer.
Et tu vois, t'avais dit, justement, je rebondis ça là-dessus, parce que tu m'avais dit à l'arrivée de... Alors, c'était l'année dernière, je crois, sur Ménestrail, tu m'avais dit, moi, à partir du moment où le premier coureur est arrivé, c'est bon, je respire.
Ah bah ouais, ouais.
Ça m'avait marqué quand tu m'avais dit ça, parce que je sentais en fait le soulagement en fait quand le premier arrive.
Ah bah c'est sûr, parce que tu mets le... Au-delà de tout ce qu'on peut faire dans une organisation avec tous les, le côté communication, tout ce que tu veux, enfin bref, toute l'organisation, le plus important c'est le traçage et le balisage des chemins. Ça c'est la pierre angulaire d'une organisation. Si c'est pas travaillé, c'est la catastrophe, quoi. Et donc nous, je sais qu'on met un accent énorme là-dessus pour qu'il y ait aucune erreur possible, mais malgré ça. Je sais pas de quel bois est fait le trailer, mais il y en a toujours qui réussissent à trouver des failles impossibles pour se planter. Donc du coup, nous, quand le premier coureur du 54 km, parce que bon, comme tu as mon contour, c'est deux boucles, en fait, il y a une boucle de 24 et une boucle de 33. Quand le premier coureur du 54 arrive, et qu'il n'y a pas eu d'erreur, c'est qu'au moins il y en a un qui a réussi à lire tout le balisage, donc les autres devraient suivre, quoi. Et c'est vraiment une satisfaction quand le premier arrive.
Bah, c'est sûr que ça va être un soulagement assez important quand tu sais que tu vas avoir au moins tes coureurs qui vont rentrer. Mais c'est vrai que tu m'en avais parlé et tu me disais, je ne comprends pas comment ils font parce qu'on fait quand même un balisage. Alors tu disais trois points, un au sol, un en l'air et un marquage. Un marquage au sol en fait quand t'es des petits fanions, t'es des petits, ouais. Des petits drapeaux, un en l'air quand c'est, et puis un plus de la craie là quand c'est nécessaire. Et tu disais, mais je comprends pas comment ils font.
Ah, nous on va voir systématiquement, on a quand même eu, même cette année, toi, on a eu deux petites erreurs de parcours sur les 13 km et on a été voir où a eu l'erreur. Par déduction, on a trouvé où a eu l'erreur, mais c'est incroyable quoi, qu'ils se soient plantés là, mais bon, c'est pas grave. Du coup, l'an prochain, on va encore bétonner un petit peu plus cet endroit-là. Quoi. Mmh. Mais j'ai aimé l'an dernier, en 2021, Lucy Gigg, qui a gagné le Grand Ménestra, il s'est planté au bout de 2 km, tu vois. Et pour se planter, elle est passée sous une rue balise.
Ah oui,
donc,
d'accord.
Elle a. Il fallait qu'elle tourne à gauche, il y avait une rue balise qui barrait la route, le chemin en face, et elle est passée dessous, parce qu'elle était dans sa course, parce que... Voilà, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est l'effet de course, quoi.
Effet de course, quoi. Et bon, heureusement, elle a réussi à corriger son erreur, et elle a gagné la course, mais là, c'est un endroit où tu te dis, il y a une rue balise qui barre le chemin, c'est impossible qu'elle se plante là. Bah si, ils sont quand même capables, quand t'es dans ta course, quand t'es hyper concentré, tu peux faire des erreurs, là. Donc voilà, donc, tu sais qu'il peut y avoir ça, donc il faut vraiment. Après, il peut y avoir des erreurs de l'organisateur, on n'est pas. Nous, c'est pareil, c'est arrivé qu'il y ait des endroits qui sont mal balisés et puis qu'il y ait des erreurs de coureurs. Je ne mets pas tout sur le dos des coureurs, bien sûr, mais c'est vraiment. Le balisage, c'est une des choses les plus compliquées dans l'organisation, mais c'est vraiment la chose sur laquelle tu n'as pas le droit de te planter, quoi.
C'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas en mettre sur le Grand Finistère.
Ah bah c'est...
Au moins,
c'est...
pas de risque de débalisage comme ils ont pu avoir ce week-end sur le trail de l'Hermine, juste avant la Mervague, justement, où ils ont eu du débalisage. Ça, c'est après... aussi un...
Ah bah après, nous, c'est pareil, tu vois, sur le... Après, c'est des... On essaye de calculer tous les scénarios, et c'est vrai que le scénario du débalisage, ça, c'est le pire. Et nous, systématiquement, donc, les courses ont lieu. La première course du Grand Ménestrail part à 6h du matin, enfin 5h30. Nous, le vendredi soir, une fois que la nuit est tombée, en fait, à partir de 19h, on revérifie. Donc, de nuit, tous les circuits, les 60 km de circuits sont vérifiés dans la nuit du vendredi au samedi par des coureurs. On revérifie tout. Pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de débalisage dans l'après-midi.
Ouais, et puis... moi, je trouve ça incroyable, quoi, cette malveillance. Le débalisage, rebalisage, en plus, ça, c'est encore pire.
Ouais,
ça, c'est vraiment un fléau.
Ah, bah, c'est un fléau, hein, c'est sûr. Maintenant, voilà, après, il faut essayer de le contrecarrer du maximum. Voilà, non seulement on revérifie tout dans la nuit, donc le balisage... on a des commissaires de course sur chaque course là, qui sont en VTT, qui vont, il y a deux ou trois commissaires par course, et qui devancent la tête de course et qui vont revérifier que le balisage est en place une heure avant le passage des coureurs. Après, même pas une heure, ils attendent, ils vont de point en point, attendre que les premiers passent pour être sûr que le balisage est bien au top. Donc c'est revérifier encore pendant la course. Quoi.
Ah, c'est ça, avec des souvent il y a des ouvreurs qui sont en VTT ou des choses comme ça.
Ouais. Peut-être qu'en Bretagne il y a tellement de courses, tellement de coureurs partout, on paye peut-être un petit peu ça. Il y a sans doute peut-être des gens que ça dérange d'avoir des coureurs sans arrêt, peut-être que sur les chemins. Donc la malveillance peut venir un petit peu de ça, soit de promeneurs, soit de chasseurs, soit de randonneurs, je sais pas qui, enfin des gens que ça peut déranger parce que le trail a pris une telle une telle importance que ça peut déranger, moi je sais pas. C'est compliqué de savoir d'où vient cette malveillance.
Bah, c'est ça, après ça c'est de la politique de faire en sorte que chaque personne se sente respectée sur son propre territoire et puis qu'il y ait une répartition des sentiers qui soit juste et équitable. Ça, c'est sûr que c'est un autre sujet. On arrive gentiment à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter pour clôturer notre échange ?
Non, alors, peut-être, vu que c'est un blog orga, une des choses qui nous a fait progresser aussi au niveau du Ménestrail, c'est au niveau du nombre de participants et au niveau de la notoriété, c'est quand on a fait une année travailler une boîte de Caen, Unique Studio à Caen, pour retravailler sur un logo. Et en fait, l'année où on a sorti ce fameux logo, là, le M, avec la nuit levant la boue, en fait, donc c'est du travail de pro, hein, Mathieu nous a fait un super boulot, et avec un nouveau logo et une nouvelle communication, c'est impressionnant comment le nombre de coureurs a bondi en 2-3 ans, en fait. Donc c'est vrai que enfin, t'es bien placé pour le savoir, mais la communication c'est hyper important et pour se démarquer par rapport au nombre d'organisations, faut avoir une grosse communication, je pense.
Ah bah je suis content que tu soulignes ce point parce que je m'évertue de répéter que effectivement un joli logo, une belle affiche, un site internet propre comme celui du Ménestrail, et ben en fait ça fait tout de suite une différence, ça fait pro et puis ça rassure en fait les coureurs et puis ça fait participer aussi à l'événement et puis au souvenir qu'on garde de l'événement et puis ça rassure aussi les partenaires qui vont voir que bah, ils ont affaire à une organisation qui fait pro en fait. Et en fait finalement l'aspect communication et l'investissement qui est fait, bah finalement c'est vraiment vu comme un investissement et plus comme une dépense.
Donc c'est sûr. Ouais. Quand on pose la question sur des petites organisations, c'est ce que je dis, mais surtout la communication et un logo et une image de marque en fait qui permette d'être identifié rapidement et puis sur l'organisation, que ce soit le trail s'est démarqué historiquement en fait, le trail s'est démarqué de la course route par ce côté fun et ce côté spectaculaire spectacle, hein, je veux dire. Si le trail a autant marché aussi, c'est pour ça, hein, avec le côté on en rajoute, il y a de la musique, il y a des concerts certaines fois, il y a des aires de départ et d'arrivée qui ont de la gueule avec des arches, des flammes et tout ce que tu veux, et de l'animation. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu un côté festif énorme par rapport peut-être aux courses routes qui sont restées plus dans un côté performance et chronomètre. Et c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles le trail a pris une énorme avance à ce niveau-là sur les courses routes, quoi, tu vois.
Ouais, c'est vrai qu'il y a plus cette image festive, conviviale, bon enfant, on saute dans la boue, quoi, hein, quelque part.
Ouais, voilà. Et détaché de la performance, on vient pas, à part les premiers, bien sûr, à part le peloton de tête, on vient pas sur un trail pour faire un chrono, on vient d'abord pour prendre du plaisir, pour essayer d'arriver au bout, bien sûr, mais voilà, avant tout pour prendre du plaisir, pour s'éclater sur le chemin, pour boire une bière à l'arrivée, pour prendre du plaisir, quoi. Donc on s'est vraiment détaché du côté performance pure.
Exactement. Et ben écoute, je crois qu'on peut inviter tous les organisateurs qui nous écoutent à venir participer au Ménestrail ou au moins au Challenge Wise Ride Tour ou au moins à une course en Bretagne, parce qu'il y a quand même pas mal de très 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 beaux événements par chez nous et on a beaucoup de chance d'avoir tous ces beaux événements. Merci Claude d'avoir participé à ce podcast Orga et puis à bientôt sur le Ménestrail ou ailleurs.
Oui, ou ailleurs, il y a plein de, faut pas focaliser, je trouve, sur les gros événements. Il y a énormément de petites courses, là, qui sont en train de monter en gamme et qui resteront soit elles resteront à leur niveau par la volonté des organisateurs, ou soit par parce que voilà, il y a énormément de concurrence, mais il y a plein de petites courses comme la course des vallées dans le Morbihan, dans l'Ille-et-Vilaine, la Flora sur le Val-André, et puis je pense que t'en as des tas aussi dans le Finistère. Il y a plein de petites organes là qui sont au top, et il faut pas hésiter à se faire surprendre en allant sur ces entre guillemets petites courses qui sont vraiment des purs bonheurs.
Très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Claude, et au plaisir.
Bon, à plus tard. Salut François.
Salut.